Aujourd'hui, la masterclass de Jean-Claude Amezen avec Raphaël Bourgois.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc pour cette masterclass avec Jean-Claude Amezen. Une masterclass avec Jean-Claude Amezen, cette collection de grands entretiens que nous avons d'abord consacrée sur France Culture à la création culturelle s'ouvre donc progressivement à d'autres voies et notamment à celle des scientifiques, des chercheurs. À quoi ressemble le travail des hommes et des femmes en blouse blanche? D'où viennent les idées? Comment naissent les vocations? Voilà certaines des questions que nous poserons aujourd'hui et dans ce moment de transition des émissions masterclass du culturel vers le scientifique, il fallait évidemment vous entendre, Jean-Claude Amezen, tout simplement parce que eh bien, vous ne croyez pas à cette frontière qui sépare les deux grands champs de la créativité et de la rationalité humaine. Quelques mots de votre parcours, vous êtes médecin, chercheur et professeur d'immunologie à l'Université Paris Diderot. Vos recherches ont porté principalement sur la mort cellulaire, un processus dont vous montrez l'importance pour lutter contre des maladies comme le sida ou des atteintes neurodégénératives. Ces travaux ont d'ailleurs donné lieu à un livre, Sculpture du vivant, le suicide cellulaire ou la mort créatrice, c'était en 1989. On l'entend... Pardon ? 99, pardon. On l'entend déjà dans ce titre, il ne s'agit pas simplement de s'interroger sur un processus biologique, mais bien de réfléchir plus largement au rôle de la mort dans la production du vivant, une question qui vous porte sans doute à la réflexion éthique. Vous avez entre autres présidé le Comité consultatif national d'éthique et vous en êtes toujours président d'honneur. De tout ça, il sera question dans cette masterclass, un peu de méthode scientifique si vous le voulez bien. Commençons par le commencement. Comment est né, Jean-Claude Amezen, votre vocation? Et d'ailleurs, peut-on parler de vocation pour la médecine en ce qui vous concerne?
Bonjour et merci de me recevoir. De vocation pour la médecine, pas au sens habituel du terme, au sens strict. Mon frère et moi avons fait médecine. Ma plus jeune sœur, Eva, a fait médecine aussi. Et elle avait une vocation, elle voulait être médecin. Elle voulait être pédiatre. Pour moi, c'était plus le fait que le champ de la médecine était extrêmement ouvert et que ça permettait de s'engager dans des études sans restreindre déjà son champ d'apprentissage et que la médecine allait de la chirurgie à la recherche en biologie, à la psychiatrie, à la psychanalyse. Et donc, elle embrassait à la fois ce qu'on appelle les sciences dures, leur application, le soulagement de la souffrance, les sciences humaines et sociales, l'abord de l'esprit. Et donc, c'était essentiellement, je dirais, cette dimension humaine de la médecine, de son champ, qui m'a attiré et qui a fait que je me suis engagé. Et comme vous le disiez tout à l'heure, quand vous parliez de culture et de science, pour moi, la science fait partie de la culture. C'est une part intégrante de la culture. Un des défauts, un des problèmes de notre société, c'est de les séparer, hein, déjà au lycée. Et je crois que la réalité est aucune grille de lecture n'est suffisante à elle seule pour embrasser la richesse et la splendeur de la réalité. Et pour moi, comprendre et ressentir les arts et les sciences, c'est des façons complémentaires de découvrir le monde et les autres.
Est-ce que ça veut dire, Jean-Claude Amezen, que vous auriez pu faire autre chose? Qu'est-ce que vous auriez aimé faire,
peut-être? Ce qui m'intéressait, c'était d'une part la science, d'une part la recherche, en fait. Hein, quelque chose que, à la fois que je croyais connaître, mais que je n'avais jamais expérimenté, hein, qui me passionnait. Et puis, tout ce qui a trait à l'écriture, c'était relativement incompatible.
Il a fallu faire un choix.
Il a fallu ne pas faire de choix. J'avais l'impression, justement, qu'en m'engageant dans la médecine, d'une certaine façon, je ne faisais pas ou je retardais ce choix.
Mais à un moment, il faut quand même choisir. Et donc, vous portez votre attention vers l'immunologie. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous dire en quelques mots en quoi consiste cette spécialité de la médecine? Et qu'est-ce que vous y trouvez? Qu'est-ce qui vous porte vers ce choix?
Alors, en fait, au début, je fais des études de médecine. Donc, je suis médecin. Je suis interne en médecine. Et la clinique, le soin, le contact avec les patients, avec les personnes, me passionne. Et puis, il y avait cette question de la recherche. Et au cours de mon internat, je me suis dit, vers le début de mon internat, que si je ne faisais pas l'expérience de la recherche, que je ne découvrais pas ce que c'était, si véritablement ça me passionnait autant que je l'imaginais, qu'est-ce que c'était concrètement, je ne le ferais jamais. Et donc j'ai commencé, et alors que je me spécialisais en pneumologie, en médecine, j'ai commencé à prendre un stage en immunologie et j'ai découvert la recherche en immunologie. Je connaissais l'immunologie. L'immunologie, c'est l'étude de l'organe dans notre corps qui nous protège contre les microbes et qui a des particularités qui étaient explorées d'un point de vue théorique qui étaient intéressantes, qui étaient comment est-ce que cet organe fait la différence entre ce qu'on appelle le soi et le non-soi, ce qui vient de l'extérieur et ce qui est à l'intérieur, les cellules de notre corps. Comment est-ce que cet organe fait la différence entre ce qui vient de l'extérieur et qui n'est pas dangereux? Et lorsqu'on réagit à ce qui vient de l'extérieur et qui n'est pas dangereux, eh bien, ce sont des maladies allergiques qui se développent, par exemple. Lorsqu'on réagit à des constituants du corps, ce sont des maladies auto-immunes. Le système immunitaire attaque le corps. Et lorsque l'on répond à des microbes qui envahissent le corps et qui sont dangereux, eh bien là, c'est quelque chose d'utile. C'est ce que la vaccination essaye nous permet de faire sans avoir été en contact avec les microbes. Donc c'est un organe qui nous protège. Il y a cette question qui renvoie un peu aux neurosciences, hein. Comment se fait cette différence entre ce qui est soi et ce qui n'est pas soi, ce qui est non dangereux et ce qui est dangereux. Et puis il y a la question de la mémoire. Vacciner, c'est permettre le développement d'une mémoire par rapport à ce qui a été rencontré. Et donc il y a une question qui se pose à un niveau très différent de celui des neurosciences, hein, celui du fonctionnement de notre cerveau, qui est comment la mémoire d'un organe qui n'a pas de conscience se met en place, qu'est-ce que ça signifie. Et donc c'était un domaine passionnant à la fois par ses implications, le rejet de greffe, le traitement des cancers, la vaccination, et en même temps par ses implications théoriques. Et donc je me suis lancé dans ce domaine. Je suis parti aux États-Unis à l'université Yale pendant près de 2 ans, et pensant, comme j'étais passionné par la médecine, pensant conjuguer les deux, j'ai découvert à Yale, aux États-Unis, que ceux qui conjuguaient les deux, en fait, faisaient soit essentiellement de la médecine et un peu de recherche, soit essentiellement de la recherche et un peu de médecine. Et la recherche a commencé à me passionner de plus en plus. Et donc, j'ai basculé à mon retour.
Vous avez dû abandonner la clinique ou en tout cas la laisser un petit peu de côté?
Alors, j'ai dû la laisser de côté parce que j'avais l'impression qu'on ne peut pas faire bien et à fond des choses qu'on ne fait pas à plein temps.
Jean-Claude Amezen, malgré vos réticences initiales, il faut bien se spécialiser. Donc, d'abord l'immunologie, et au sein de l'immunologie, vous vous intéressez à ce qu'on appelle, ce que vous avez appelé le suicide cellulaire. Je parlais de ce livre, hein, Sculpture du vivant, le suicide cellulaire ou la mort créatrice, donc en 1999, qui croisait histoire et science. Comment naît cette idée du suicide cellulaire chez vous? Qu'est-ce qui déclenche finalement l'intérêt pour ce processus particulier et qu'est-ce que vous découvrez?
Ce qui est très intéressant, c'est que, en tout cas, en ce qui me concerne, et je pense que c'est assez fréquent, les intuitions, les recherches naissent autant d'événements qui n'ont rien à voir avec ce qu'on est en train de faire dans la recherche que des questions qu'on est en train de se poser. Et en ce qui me concerne, la plongée dans les phénomènes d'autodestruction cellulaire, dans les phénomènes de mort cellulaire, dans ce qu'on appelle les phénomènes de mort cellulaire programmée, est venue d'un événement qui n'avait rien à voir avec les travaux dans lesquels j'étais plongé, et qui a été une maladie soudaine de mon père au début de l'année 90. Mon père qui était en pleine santé et qui, à la montagne d'un seul coup, tombe malade, avec un verdict des médecins qui disent qu'il n'en a plus que pour quelques semaines à vivre. Et donc c'était quelque chose de bouleversant pour moi. Et depuis quelques années, et en particulier quand j'étais aux États-Unis, j'avais collectionné toute une série d'articles, je lisais dans tous les domaines, qui me paraissaient intéressants, qui me paraissaient avoir un rapport avec les maladies sur lesquelles je travaillais, et en particulier avec le sida, mais sans que cette relation me paraisse soit formalisé dans mon esprit. Et donc j'avais cette collection d'articles qui concernaient les phénomènes d'autodestruction cellulaire dont on pensait à l'époque qu'elles étaient essentielles dans le développement de l'embryon. Par exemple, le fait que nos doigts sont individualisés. Ce qui se passe, c'est qu'au début du développement embryonnaire, nos doigts sont joints par des palmes. Et puis à un moment, les cellules qui forment ces palmes s'autodétruisent. Et nos doigts sont séparés. Chez les animaux aquatiques, cette autodestruction est atténuée et ils ont des pattes palmées. Donc c'est cette sculpture du vivant, c'est-à-dire au fond, c'est ce qui émerge en termes de forme et de complexité par ce qui est retiré. Un peu comme un sculpteur construit sa sculpture par ce qu'il retire de la pierre et pas forcément par ce qu'il ajoute. Et donc c'était un phénomène qui était considéré comme jouant un rôle important dans le développement de l'embryon. Des recherches qui étaient assez confidentielles, assez minoritaires, et dont on pensait, ce qui est intéressant d'ailleurs, que d'une certaine façon, passé la naissance, eh bien, il s'atténuait ou disparaissait, et que ces relations complexes entre la vie et la mort, l'autodestruction ou la survie, qui permettaient de construire ce qui est extrêmement compliqué, qui est la forme d'un embryon, s'interrompaient à la naissance quand au fond déjà continuer à vivre était quelque chose de suffisamment compliqué pour que ça n'intervienne pas. Et donc je me suis plongé dans ces papiers. Fabienne, ma femme, me montre un article qui venait de sortir, un article d'un chercheur allemand, qui montrait qu'il y avait un traitement contre le cancer qui entraînait ce phénomène d'autodestruction, un traitement expérimental. Et donc je lui dis, c'est beau, mais c'est des traitements expérimentaux, c'est pas quelque chose qu'on peut, chez la souris, c'est pas quelque chose qu'on peut appliquer. Et je me replonge dans ces papiers. Et le fait que je me replonge dans ces papiers a un caractère apaisant. Et donc, c'est quelque chose, je veux dire, plonger dans un rôle de la mort qui est de construire le vivant avec quelque chose d'apaisant par rapport à la dimension de la mort qui au contraire déconstruit et détruit une personne. Et donc s'il y avait un côté apaisant, j'ai même commencé à parler à mon père de ces phénomènes sans faire de relation directe. Et puis au bout de, je sais plus si c'était une semaine, 10 jours, d'un seul coup, une intuition qui est, mais au fond, ce qui nous construit, ce qui est indispensable à la construction de nos corps et des corps des animaux dans le monde, si ça se remet en marche plus tard à l'âge adulte, eh bien ça pourrait nous déconstruire. Et donc vient l'idée que des maladies, et une maladie en particulier sur laquelle je travaillais à l'époque qui est le sida, mais aussi des maladies neurodégénératives, pourrait être dû non pas, comme on le pensait, au fait qu'il y a quelque chose qui est en train de détruire des cellules, mais qu'un dérèglement dans les communications cellulaires les pousse à s'autodétruire. Et que donc, si on modifiait ces communications cellulaires, eh bien peut-être les cellules ne se détruiraient pas. Et à ce moment, c'est une impression très extrêmement étrange. Vous avez l'impression que c'est évident, que c'est tellement simple que ça ne peut qu'être vrai. Et d'un autre côté, vous vous dites que c'est tellement simple que c'est sans doute pas vrai. Et donc pendant plusieurs jours, avec Fabienne, je me suis quasiment retiré du laboratoire. On essayait de construire, au fond, si c'était vrai, qu'est-ce que ça prédisait? Comment est-ce qu'on peut prouver que c'est vrai? Quelles expériences il faudrait faire pour voir si c'est vrai ou si c'est faux? Et donc j'ai écrit un article théorique, un article qui présentait cette hypothèse et qui présentait les expériences qui permettraient de montrer si c'était vrai ou si c'était pas vrai. Ce que je vous ai pas dit, c'est que ces phénomènes d'autodestruction cellulaire et ce qui était leur caractère étrange et assez merveilleux tel qu'il se déroulait dans le développement embryonnaire, si je le disais de manière très simple, ce qui est apparu, c'est que produit pas seulement pendant des maladies, mais dans les années suivantes, ce qui est apparu, c'est que ça persiste durant toute notre vie dans l'ensemble de nos cellules. C'est une vision de la vie qui est assez différente de celle qu'on a intuitivement et spontanément. Toute cellule fabrique et donc possède les outils qui lui permettent à tout moment de déclencher son autodestruction et de disparaître. Et ce qui fait qu'une cellule survit, c'est qu'elle trouve dans son environnement des molécules émises par d'autres cellules qui l'empêchent de déclencher l'activité de ses outils et de s'autodétruire. Donc ce qui veut dire que à ce niveau-là, qui est le niveau des cellules qui composent l'ensemble du monde vivant, vivre, c'est avoir réussi pendant un temps à ne pas déclencher son autodestruction. Et vivre, ce qui est aussi intéressant, quand on se demande ce qui, dans une cellule, lui est nécessaire et suffisant pour vivre, la réponse devient d'autres cellules, la présence d'autres cellules. Et si vous prenez des cellules et que vous les isolez, et que vous ne les mettez pas en présence de molécules que vous avez recueillies et qui d'habitude sont émises par d'autres cellules, eh bien, la seule chose que sait faire cette cellule, c'est de s'autodétruire. Et donc, il y a une idée que, au niveau cellulaire, au niveau élémentaire, au niveau qui est celui qui a été celui de la vie pendant près de 4 milliards d'années, c'est les relations entre les cellules qui déterminent leur survie ou leur disparition. Et cette idée que vivre, c'est vivre en sursis. L'idée était que la mort n'était pas forcément due à une famine, un environnement inhospitalier, au fait qu'on était tué, au fait qu'on était détruit. Et ça m'évoquait un passage de l'Odyssée qui est le moment où la magicienne Circé prévient Ulysse que leur bateau va naviguer au large de l'île des sirènes et que les sirènes ont un chant qui, lorsqu'on l'entend, entraîne l'autodestruction. C'est pas décrit, sans doute les marins sautent à la mer et leurs ossements ensuite jonchent les rochers au voisinage de l'île. Et donc Circé donne deux conseils à Ulysse. Mettre de la cire dans les oreilles de ses marins pour qu'ils n'entendent pas le chant. Et lui, qui veut entendre le chant mais survivre, c'est de se faire attacher au mât du navire et de pouvoir entendre sans se tuer. Et donc il y avait dans ces récits anciens quelque chose qui disait que les relations entre la vie et la mort peuvent ne pas être de l'ordre, encore une fois, de la destruction, mais peuvent être de l'ordre des communications et de la réponse à ces communications. Et ce qui m'est apparu plus tard, c'est que il y a un autre récit qui est l'expédition des Argonautes, dans lequel Jason part à la recherche de la toison d'or, et qu'à ce moment, ils ont Orphée à leur bord. Et que lorsqu'ils approchent l'île des sirènes et que les sirènes se mettent à chanter, Orphée se met à chanter et à jouer de la lyre. Et que dit le récit ? Le chant des sirènes en présence du chant d'Orphée avait perdu cette capacité d'entraîner la mort de ceux qui l'entendaient. Et ce qui se passe de manière extrêmement schématique dans l'organisme, c'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est un peu comme si le chant des sirènes était en permanence en train de retentir. Et qu'en fonction du chant d'Orphée, qui est au fond le chant des autres cellules, eh bien ce chant des sirènes entraînait ou n'entraînait pas l'autodestruction de la cellule qui les écoutait.
Vous avez donc cette intuition, Jean-Claude Amezen, vous l'avez dit, vous avez éprouvé le besoin de vous retirer du laboratoire, de mener d'abord un travail théorique, ça interroge sur le quotidien du chercheur. À quoi ressemble le quotidien d'un chercheur, justement ? Est-ce que il est essentiellement en laboratoire, hors laboratoire ? Comment est-ce que vous vivez ce métier ?
Alors, il est en laboratoire, mais je pense qu'il y a autant de façons de mener le métier de chercheur ou l'activité de chercheur qu'il y a de personnes et de chercheurs. Vous avez des chercheurs qui sont passionnés par la manipulation du réel et donc qui sont en permanence en train de faire des expériences. Et puis vous avez des chercheurs qui sont plus dans l'élaboration, dans l'expectative, dans l'attente, dans l'élaboration de schémas et d'expériences. Et j'ai toujours été plus attiré par l'exploration du champ des possibles que par la réalisation elle-même des expériences. Pour une raison peut-être qui tient à autre chose, depuis que j'étais très petit, j'étais un lecteur. J'ai dû lire mes premiers livres à l'âge de 5 ans, qui étaient des livres assez tragiques d'ailleurs. Hein. Je me rappelle que les deux premiers livres que j'ai lus étaient La case de l'oncle Tom et Le dernier des Mohicans. Et puis le livre de la jungle, qui a été une autre façon d'approcher la nature. Et le monde des livres m'a toujours paru un complément indispensable de ce que nous appréhendons du monde réel dans notre vie quotidienne. Et lorsque j'ai commencé la recherche, c'est resté. Et donc lire les publications scientifiques, à la fois dans le domaine qui était le mien, mais dans des domaines qui n'avaient rien à voir, était pour moi une part essentielle de l'activité de recherche. Et donc, il y a toujours eu cette relative distance par rapport à ce qui se faisait, parce que ce qui m'intéressait, c'était autant le mouvement du monde, le mouvement de la recherche que je pouvais lire en permanence, que ce que nous en tirions et la manière dont nous y contribuons. Donc il y a une infinité de façons de faire la recherche. Et je pense que la complémentarité, c'est-à-dire le fait que dans un laboratoire, dans un institut, il y ait des personnes qui sont attirées par des dimensions différentes, qui ont des appétences différentes, qui ont des façons d'approcher les problèmes différentes, qui ont une culture différente, qui viennent de disciplines scientifiques différentes, enrichit de manière considérable ce qu'on fait. Et c'est pour ça que je crois beaucoup, non seulement à la transdisciplinarité, mais aussi à la diversité personnelle des chercheurs, des étudiants venant d'horizons différents. Parce que je crois que cette diversité fait que lorsqu'on réfléchit ensemble, l'intelligence collective amène à des territoires plus intéressants, plus originaux et plus neufs que lorsque l'on réfléchit entre personnes qui ont la même formation, qui ont le même parcours, qui ont les mêmes intérêts.
On va venir à cette question de la transdisciplinarité, évidemment, Jean-Claude Amezen, mais puisque vous avez parlé du jeune lecteur que vous avez été et que finalement on essaye de... dans cette masterclass, de comprendre où plongent les racines de la recherche, où plonge finalement la vocation. Est-ce qu'elle ne vient pas de cette curiosité de l'enfant? Est-ce que la curiosité de l'enfant fait le chercheur? Ce questionnement qui peut paraître évident, pour tous ceux qui ont des enfants, les connaissent, d'où vient le vent? Pourquoi on meurt? Et autant de questions qui semblent évidentes, mais auxquelles on est bien en peine d'apporter des réponses la plupart du temps. Est-ce que vous diriez que c'est là que se niche la vocation de chercheur?
Je pense que tout enfant est un chercheur. L'enfance, puis l'âge adulte, fait souvent perdre cet émerveillement, cet étonnement, ce questionnement. Et on commence à vivre dans un monde qui est rassurant, parce qu'il est plus fait de réponses que de questions. Et je pense que faire de la recherche, à tous les niveaux et dans tous les domaines, c'est conserver cette part d'enfance, les connaissances, les réponses. C'est extraordinairement satisfaisant, mais ça n'épuise pas le questionnement. Et donc je crois que cette part d'enfance qui cherche toujours à découvrir plus, à comprendre mieux, à mieux appréhender, c'est quelque chose qu'on devrait cultiver en nous tous.
Est-ce que vous êtes-vous poursuivi peut-être par des questions sans réponse ou même par des questions auxquelles vous pensiez avoir apporté des réponses mais qui finalement continuent de vous hanter comme s'il fallait encore trouver quelque chose?
C'est un paradoxe. Si on pense que la recherche de demain sera riche, c'est qu'on pense que toute une série de connaissances sont en train de dormir, attendant d'être découvertes et que nous ne connaissons pas. Je pense qu'il y a à la fois devant les connaissances dans tous les domaines, devant les réponses qui ont été apportées, une démarche de respect. C'est extraordinaire de découvrir tout ce que ceux qui nous ont précédés ont pu apporter, qu'il s'agisse des œuvres d'art, qu'il s'agisse de la réflexion philosophique, qu'il s'agisse de la science. Et donc je crois que vis-à-vis de la connaissance, il y a d'abord une démarche de respect. Mais à partir de cette démarche de respect, à partir de cette démarche d'appropriation progressive, et je pense que, d'une manière très générale, ça, si je devais le dire autrement, rétrospectivement, je me suis interrogé, je vous parlais de la maladie de mon père et de l'entrée dans ce domaine de recherche. Je me suis dit, avec le temps qui passait, qu'au fond, ce domaine de recherche reflétait, était un écho à une dimension plus vaste. C'est au fond ce qui persiste de ce qui disparaît. C'est la présence de l'absence. C'est De la même façon
la question de la mémoire, par exemple.
Voilà, de la même façon que le vivant, je dirais, se construit, qu'une sculpture se construit autant par ce qui disparaît que par ce qui émerge, il y a dans tout ce qui nous entoure, il y a à la fois la mémoire, la présence de ce qui nous a précédé, et puis la présence par défaut de ce qui a disparu. Il y a une forme de manque. Et je crois que c'est la même approche vis-à-vis de la connaissance. C'est-à-dire que la connaissance est riche de tout ce qu'elle nous apporte, et elle est riche de tout ce qui lui manque encore. Et d'une certaine façon, c'est qu'on dit que il y a deux types d'ignorance. Il y a ce que l'on sait que l'on ne sait pas, et qui est une source de recherche et de questionnement très grande. Hein, ce dont on sait qu'il faudra qu'on le trouve parce que ça manque à notre connaissance. Et puis il y a ce qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. Et en général, c'est dans ce qu'on ne sait pas que surgissent les découvertes les plus marquantes, les plus étonnantes. François Jacob disait qu'on peut mesurer l'importance d'une découverte au degré de surprise qu'elle provoque. Si c'est vraiment nouveau, disait-il, alors c'est vraiment inattendu. Et même si on ne sait pas, par définition, ce qui sera découvert demain, le fait de savoir qu'il y a des territoires inconnus, c'est quelque chose qui rend attentif, hein, qui permet encore une fois de rester ouvert à l'inattendu, et de ne pas considérer que l'inattendu ou le nouveau, c'est quelque chose de perturbant. C'est quelque chose qui nous enrichit, à condition que nous soyons capables d'en comprendre la signification.
Vous avez souvent décrit, Jean-Claude Amezen, la recherche scientifique, la démarche scientifique, comme une sorte de mélange entre le déterminisme et la liberté. Ce déterminisme du monde physique qui nous entoure, dont la science tente de démêler la chaîne des causes et des effets, et évidemment la nécessité, pour démêler justement cet écheveau compliqué des causes et des effets, de jouir d'une certaine liberté pour inventer, pour créer. Et peut-être que justement, dans cette partie de liberté, l'importance, on vient à cette question de la transdisciplinarité, de l'inter disciplinarité, c'est de se nourrir à la fois des recherches en sciences humaines, vous l'avez dit, vous êtes le directeur depuis 2011 du Centre d'études du vivant, qui est un institut situé à l'Université Paris Diderot, où justement au sein de l'Institut des humanités se parlent, discutent, cherchent ensemble à la fois des acteurs de la recherche scientifique dite dure et des sciences humaines, mais vous êtes aussi, Jean-Claude Amezen, très intéressé par la création artistique. Vous avez publié « Quand l'art rencontre la science », qui était une coédition entre la Martinière et l'INSERM, hein, l'Institut de recherche médicale, en 2007. Et il y a aussi chez vous la question de la poésie, de la littérature. Comment est-ce que tout ça entre en compte ? Vous venez aussi d'une famille où la musique est très importante. Bref, comment est-ce que tout ça percole, en quelque sorte, pour faire de vous le chercheur que vous êtes ?
Je sais pas comment ça percole pour donner naissance au chercheur que je suis. Je crois que c'est plutôt à la personne que je suis et qui ne cesse de se transformer. Donc je crois que c'est mes interrogations, mes émerveillements, mes activités, mes centres d'intérêt, je dirais, sont à la fois mus par ce qui vient des arts, par ce qui vient de la littérature, par ce qui vient de la philosophie, par ce qui vient des sciences, et puis par ce qui touche au respect de la personne, au respect des droits, à la souffrance, et donc tout ça se tisse, parce que je pense aussi que, au fond, la beauté extraordinaire de l'art, de la réflexion, des avancées des connaissances, a quelque chose de dérisoire quand elle ne prend pas en compte ou quand elle ne s'applique pas au respect de la personne. Et donc pour moi, c'est extrêmement lié, au fond, c'est différentes façons de nous voir, de nous connaître, de nous rencontrer, de connaître le monde dans lequel on vit, et tout ça est lié. Et je crois que lorsqu'on se spécialise trop, et je veux dire, on se spécialise toujours, hein, mais lorsqu'on coupe les ponts entre la démarche scientifique, entre la démarche artistique, entre les interrogations sur l'état du monde, eh bien, on s'appauvrit. Hein, et donc, je crois que cette circulation, c'est une façon, encore une fois, de s'intéresser à à ce qu'il y a de plus humain en nous, c'est-à-dire à la fois les relations qui nous lient et puis cette capacité à comprendre le monde. Moi, ce que j'ai trouvé de plus bouleversant, non pas d'un point de vue scientifique, mais d'un point de vue humain, dans la théorie de l'évolution élaborée par Darwin, c'est le fait que c'est étrange parce qu'il y a différents regards. Freud considérait que c'était ce qu'il appelait une blessure narcissique. C'est-à-dire, au fond, c'était quelque chose pour les êtres humains qui les amoindrissait, qui les abaissait, qui les blessait. Il disait qu'il y avait eu trois blessures narcissiques. La première, c'était Copernic, montrer que la Terre n'était pas le centre de l'univers, mais une petite planète périphérique qui tournait avec d'autres autour du Soleil. La seconde, c'était Darwin, qui montrait que l'humanité, l'être humain, n'était pas le centre du monde vivant, mais une émergence tardive d'une évolution qu'il n'avait pas prévue. Et puis la troisième, il n'était pas très modeste. Il disait que c'était sa contribution, c'est-à-dire que ce que nous pensons être d'ordre rationnel et conscient surgit le plus souvent à notre insu, de notre inconscient. Et donc c'est une vision de la théorie de l'évolution de Darwin qui dit au fond elle nous blesse, elle nous amoindrit. Moi, ce que j'ai toujours trouvé très émouvant, elle enrichit les relations que nous entretenons avec le monde parce qu'elle nous dit que l'ensemble des êtres vivants qui nous entourent ne sont pas simplement notre environnement, mais notre famille. C'est notre famille, ce sont des cousins plus ou moins proches, plus ou moins lointains, mais nous sommes des cousins des oiseaux et des arbres. Et donc c'est au fond nous rapprocher de ce qui nous entoure. Et quand un demi-siècle après la théorie de Darwin, parce que Darwin avait montré que le vivant ne cesse de se diversifier, de se modifier, d'évoluer à partir d'une origine commune, les astrophysiciens pensaient que l'univers, lui, n'avait pas bougé. Les planètes tournaient, il y avait un certain nombre d'événements, mais l'univers n'avait pas bougé. Et puis au début des années 20, a été découvert que ce que Darwin pensait du monde vivant, eh bien, existait aussi au niveau de l'univers, qui n'avait cessé de se métamorphoser. Et nous avons découvert que nous sommes parents, nous sommes cousins de l'univers, nous sommes des poussières d'étoiles. Et donc, je crois que ces révolutions scientifiques ont une dimension affective quand on les pense dans ce qu'elles disent de nos relations au monde qui nous entoure et qui nous a donné naissance.
Alors on l'entend, la science peut parler à nos émotions, tout comme l'art peut parler à notre rationalité, Jean-Claude Amezen. J'aimerais que vous nous parliez de votre rapport à la poésie, parce que tous ceux qui vous ont entendu dans votre émission sur France Inter, Les Épaules de Darwin, savent que vous écoutez, c'est écouter une histoire, comprendre un petit bout du monde qui nous entoure, mais c'est aussi écouter une langue, une forme de poésie, justement. Et je sais que vous êtes particulièrement sensible à la poésie de Paul Celan, par exemple, ou d'Emily Dickinson. La poésie comme façon finalement de voir le monde, de faire un pas de côté, elle vous nourrit aussi en tant que chercheur. C'est un peu cette démarche que vous recherchez, c'est-à-dire comment regarder le monde avec un œil nouveau, ou monter sur les épaules des géants peut-être.
Tout à fait. Je crois que ce qui est bouleversant dans la poésie, c'est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire c'est différent de la musique. La musique nous bouleverse. Il y a une construction mathématiques, il y a quelque chose de formel, et puis il y a les émotions des sons, de leurs harmonies. La poésie possède cette dimension, mais joue avec des mots qui ont un sens. Et donc il y a quelque chose de très beau, qui est que des mots qui ont un sens, agencés d'une certaine façon, avec une certaine musique, vous font redécouvrir le sens, vous font redécouvrir ce qui est mentionné d'une manière complètement inhabituelle, non seulement belle, non seulement bouleversante, mais nouvelle. Et donc il y a dans la poésie quelque chose qui, à la fois, est de l'ordre de toute démarche artistique, mais qui est aussi, parce que ce sont des mots, parce que ce sont des idées qui sont utilisées, quelque chose qui est une forme de questionnement sans réponse, mais de questionnement qui fait voir la réalité de manière nouvelle. Et je crois que la recherche, fondamentalement, la recherche au sens le plus large, possible, c'est de découvrir des questions là où on pensait qu'il n'y avait que des réponses. Tant qu'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de recherche possible. C'est pas parce qu'il y a une question que la recherche va aboutir, mais la première étape d'une recherche, c'est de voir émerger une question là où on pensait qu'il n'y en avait pas. Et s'il y a une question, ça veut dire qu'il y a, quelque chose qui mérite d'être exploré. Il y a quelque chose qui mérite d'être remis en question.
On a parlé de la littérature, de la poésie. Il y a aussi le roman, Jean-Claude Amezen. Je sais que vous aimez particulièrement le romancier prix Nobel de littérature Patrick Modiano, et notamment un roman en particulier qui est Dora Bruder. Cette quête, cette recherche de l'inconnu présent chez Modiano dans ce roman et dans bien d'autres, c'est évidemment important. Ça croise aussi votre histoire personnelle, votre histoire familiale, celle de vos parents rescapés de la Shoah. Et qu'est-ce que cette histoire personnelle dit de votre parcours, et peut-être rétrospectivement, sans faire, vous avez parlé de Freud, sans faire de la psychologie non plus de comptoir, de votre recherche sur la vie, la mort, votre questionnement éthique. On sait que notamment les premières réflexions éthiques sur le rôle des individus dans la recherche biomédicale ont été posées lors des procès de Nuremberg. Comment est-ce que tout ça fait sens aujourd'hui pour vous ?
Je crois rétrospectivement, encore une fois, je pense que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire une notion aiguë à la fois du caractère merveilleux et du caractère extraordinairement fragile de la vie et de la vie humaine. Et donc une recherche de ce qui survit, encore une fois, dans ce qui a disparu, dans ce qui a été détruit, sous toutes ses formes. Je pense que là encore, la culture, Oliver Sacks disait que la culture avec les langues est le plus beau cadeau que les générations font aux générations qui les suivent. Je crois que c'est cette idée que non seulement nous sommes des héritiers avant de commencer à réinventer ce qui nous a été légué, mais aussi la tragédie, non seulement que des vies aient disparu, que des mondes aient été détruits, mais qu'il n'en reste rien. Et donc, les garder présents et essayer de les explorer, c'est d'une certaine façon continuer à les faire vivre. La poétesse Anne Michaels, poétesse canadienne, dit que il n'y a pas d'absence s'il y a au moins le souvenir de l'absence. Et donc c'est sans doute un attachement à ce qui disparaît, et puis concomitamment un respect pour cette fragilité, une conscience aiguë de cette fragilité. Et je pense qu'il s'agisse de la médecine, qu'il s'agisse de la recherche avec une autre dimension, ou qu'il s'agisse de la démarche de réflexion éthique collective, c'est cette idée que parce que la vie est fragile et extraordinaire, il faut tout faire pour la préserver. L'évolutionniste Stephen Jay Gould disait, dans un livre bouleversant qui s'appelle « La malmesure de l'homme », disait « Nous ne traversons ce monde qu'une fois, et il n'y a pas de tragédie plus grande, ou il y a peu de tragédie plus grande que de ne pas laisser la vie s'épanouir, et pas d'injustice plus profonde que de réduire à néant la capacité d'espérer à cause de limites qui viennent, dont on pense qu'elles viennent de l'extérieur, dont on pense qu'elles viennent de soi, alors qu'elles sont imposées de l'extérieur. Donc je crois que tout ce qui peut nous permettre de préserver la liberté, l'autonomie et la vie des personnes qui nous entourent, et les personnes qui nous entourent, c'est l'ensemble de l'humanité, hein, que les personnes soient proches ou lointaines, c'est quelque chose qui participe d'une certaine façon à cette célébration de la vie, dans la reconnaissance pleine et entière de sa fragilité.
Dans un essai paru récemment, c'était à l'automne 2017, le philosophe Francis Wolff s'interroge sur trois utopies contemporaines, et notamment dans ces trois utopies, il place le transhumanisme. Et donc, le transhumanisme, c'est aujourd'hui cette idée selon laquelle on pourrait justement dépasser cette condition de mortel qui est la nôtre et qui nous hante depuis que le monde est monde. Et il a cette formule, il dit que toujours vouloir vivre n'est pas forcément vouloir vivre toujours. C'est-à-dire que si on perd cette mortalité qui est la nôtre, on perd quelque chose d'essentiel. Qu'est-ce que l'ancien président du Conseil consultatif national d'éthique, actuel président d'honneur du Conseil consultatif national d'éthique, dit de cette tendance, cette idée de transhumanisme?
Alors, transhumanisme, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que transhumanisme, c'est passer à travers l'humain.
Dépasser notre humanité.
Voilà, oui. Mais c'est quasiment la traversée. Et la traversée pour aller où, hein? Donc, modifier ce qui nous constitue, ce que la médecine n'a cessé de faire ou d'essayer de faire depuis très longtemps, hein, pour soulager la souffrance, pour permettre de mieux affronter certaines tragédies de la vie, bien sûr, c'est de l'ordre de la médecine. L'idée d'immortalité est une idée métaphysique. Vous savez qu'être immortel, c'est ne pas mourir demain. Et donc, savoir qu'on ne mourra pas demain, il faut attendre la fin des temps pour savoir si ça a eu lieu. Donc,
comme disait Woody Allen, la mortalité, c'est très long, surtout vers la fin. Ouais.
Et donc, donc, je pense qu'il y a quelque chose de métaphysique qui est tout à fait... Je veux dire, les approches métaphysiques, les approches des spiritualités sont quelque chose qui est profondément lié à notre condition. Mais mêler la science à une approche métaphysique, parler d'immortalité lorsqu'on parle de science, c'est absurde. Pour l'instant, jusqu'aujourd'hui, et c'est tout à fait extraordinaire, à mon sens, toutes les expériences qui ont été faites depuis une vingtaine d'années, c'est une révolution dans la biologie, dans des espèces animales très différentes qui vont d'un petit ver transparent à la mouche du vinaigre et à la souris qui nous est plus proche, par des modifications soit d'un gène, soit de l'environnement, soit du mode de vie, qui donnent les mêmes résultats. Modifier l'intérieur, ou modifier l'extérieur, ou modifier la manière dont l'organisme interagit avec l'extérieur, donne souvent les mêmes résultats. Et tout ce qui a pu être fait jusqu'aujourd'hui augmente de 30% ce qu'on appelle la durée de vie naturelle maximale, hein, qui dans l'espèce humaine semble être de 120 ans, hein, de l'ordre de 120 ans. Ça augmente d'un tiers. C'est extraordinaire. En plus, dans certaines de ces expériences, ce que ça augmente, c'est la durée de la jeunesse. Ça n'augmente pas la durée de la vieillesse, ça augmente la durée de la jeunesse. Puis l'animal vieillit et meurt. C'est extraordinaire, mais c'est 30%. Et donc, le mieux qu'on puisse faire aujourd'hui, avec la biologie la plus moderne, est de 30%, parler de longévité infinie ou d'immortalité n'a rien à voir avec la démarche scientifique actuelle. Donc, vivre plus longtemps, pourquoi pas? De quelle manière? Avec quel problème? Vous savez, toutes les approches qui répondent à certaines questions en posent de nouvelles. Et donc... Le fait que notre existence soit limitée nous pose des problèmes. Mais s'il y avait un moyen de la prolonger, ça nous poserait d'autres problèmes. Il n'y a pas de réponse définitive. Il y a des avancées qui répondent à certaines questions et en posent d'autres. Donc je crois que le transhumanisme tel qu'il se définit, c'est une approche métaphysique. Ça n'est pas une approche scientifique. Maintenant, nous avons de plus en plus un pouvoir de modifier le vivant et de nous modifier. Et donc la question de savoir comment l'utiliser de la manière qui est la plus bénéfique à chaque personne et qui cause le moins d'inconvénients à d'autres est une question importante. Moi, je crois qu'il n'y a pas de... On dit souvent que les avancées, c'est le progrès. Il y a des avancées de plus en plus vite, à la fois dans les connaissances et dans les possibilités d'application. Je crois que ce qui est un progrès, c'est quand on les applique d'une manière... qui respectent les personnes et qui bénéficient aux personnes. Les avancées sont des progrès dans les connaissances ou les applications, mais pas des progrès en termes humains. Et donc la réflexion éthique, c'est s'interroger sur la façon la plus souhaitable d'utiliser ce que nous avons de nouveau en termes de connaissances et en termes d'applications. Et là encore, on parlait de transdisciplinarité tout à l'heure et de croisement de regards. Ce qui est tout à fait original dans la démarche éthique biomédicale moderne, hein, qui naît, comme vous le disiez, avec le code Nuremberg en 1947, c'est l'idée que lorsqu'il s'agit non pas de répondre à une question technique très précise, mais lorsqu'il s'agit de réfléchir à l'utilisation d'applications nouvelles dans la société, l'expertise médicale et biologique est indispensable, mais elle est insuffisante. Et donc, c'est l'idée de ces instances éthiques, de ces comités d'éthique, dans lesquels il y a non seulement des biologistes et des médecins, mais des personnes qui viennent d'horizons complètement divers, des anthropologues, des juristes, des philosophes, des psychologues, et dans beaucoup de pays, des personnes qui sont choisies uniquement du fait qu'elles appartiennent à la société. Elles n'ont aucun profil particulier. Ce sont des personnes de la société. Et cette idée que lorsqu'on réfléchit ensemble, au-delà de l'expertise, en croisant les regards, eh bien, on peut arriver encore une fois à des questionnements, à des réflexions et à des réponses qui sont différentes, plus riches, plus originales que celles que chacun des participants avait au départ. Moi, ce que j'ai toujours trouvé le plus riche dans un comité d'éthique, comme le comité consultatif national d'éthique, c'est lorsque, déjà, il faut élaborer un langage commun. Le langage du philosophe, le langage du juriste, le langage du sociologue, le langage de la biologiste ou du médecin, pour décrire le même objet, la même approche, est très différent. Il faut déjà se comprendre.
Par exemple, j'ai écrit « Qu'est-ce que mourir en 2003 ?» Mourir, c'est pas la même chose pour un médecin, un biologiste, un philosophe ou un sociologue.
Et quand il s'agit d'appliquer en plus des approches particulières, c'est différent. Et donc déjà, commencer à élaborer un langage commun, c'est commencer à voir la question de manière différente, d'une nouvelle manière. Et ce que j'ai toujours trouvé le plus intéressant, c'est lorsque le comité élaborait une réflexion qui finissait par être différente de celle que chacun et chacune des membres avait au départ. Donc c'est véritablement quelque chose qui est de l'ordre de l'intelligence collective. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'aujourd'hui, partout dans le monde, un comité d'éthique, une instance éthique dans le domaine biomédical serait considéré comme illégitime et considéré comme illégitime s'il ne comporte que des biologistes et des médecins. Et donc il y a cette idée que lorsqu'il s'agit du respect des personnes, du respect des droits fondamentaux, du bien-être, eh bien il faut dépasser l'expertise. Et ce qui me frappe toujours, c'est que dans d'autres domaines, comme l'économie, comme les grands choix économiques, d'autres domaines encore, on a toujours l'impression qu'il faut qu'il n'y ait que des experts pour choisir ce qui convient de faire. Et l'idée que des décisions économiques devraient être prises par des comités dans lesquels il y a des économistes, des biologistes, des philosophes, des personnes qui appartiennent à la société et des artistes, paraît complètement farfelue. Et je pense que si ce qui a été choisi depuis plusieurs dizaines d'années comme approche la plus respectueuse dans un domaine dont la vocation, au moins sur le plan théorique, c'est de soulager la souffrance, d'aider et d'accompagner, eh bien, il faudrait peut-être que dans d'autres domaines, on réalise aussi que l'expertise est indispensable, mais qu'elle est insuffisante.
Mais ça ne s'arrête pas, Jean-Claude Amezen, aux questions des implications sociales de la science. Aujourd'hui, il y a des mouvements de science citoyenne, de science participative, qui montrent que même en allant au fond de la recherche, la participation de ceux qui sont concernés, des citoyens, est importante. Vous êtes, comme médecin immunologue, vous l'avez dit, vous avez travaillé sur le sida. C'est précisément une épidémie qui a vu surgir avec des mouvements comme ACT UP, comme AIDS. On l'a vu dans le très beau film de Romain Campillo, 120 battements par minute. Des malades experts, et ça a profondément transformé la façon de faire de la recherche et la façon de faire de la médecine.
Absolument. Les associations de patients et le rôle des associations de patients, à la fois dans le dialogue avec la médecine et plus récemment dans le dialogue avec la recherche, qui maintenant touche toutes les maladies, toutes les associations, tous les handicaps, c'est né avec le sida. Moi, je crois que beaucoup de démarches fondamentales en éthique biomédicale ne sont pas nées, ce qu'on a souvent l'impression d'une volonté d'améliorer les choses, mais de réaction devant des désastres. Soit des désastres causés par l'homme, soit des désastres naturels. La Croix-Rouge est née sur le champ de bataille du désastre qu'était la bataille de Solferino, avec une réponse assez étrange dans sa simplicité, qui était qu'il faut soigner tout le monde. Pas seulement ces soldats, mais les soldats ennemis et les civils qui sont blessés. L'idée de ce qu'on appelle le choix libre et informé, c'est-à-dire qu'une personne qui participe à une recherche ou une personne qui demande à être soignée, eh bien, on ne peut pas lui imposer ce qu'on croit bon pour elle, mais c'est à la personne qu'on doit donner les éléments qui lui permettent d'élaborer son choix, ce qu'on appelle le choix libre et informé. C'est né lors du procès des médecins nazis à Nuremberg. Le droit d'ingérence, le fait que les médecins, s'ils soignent, doivent dénoncer la cause des blessures et des décès s'ils sont causés par des conduites humaines. C'est né lors du génocide du Biafra et ça a été la naissance de Médecins sans frontières. Droit d'ingérence que l'ONU appelle aujourd'hui responsabilité de protéger. Et le désastre du sida a fait naître non seulement le rôle reconnu des patients, des patientes et des associations, mais aussi une autre modification parmi beaucoup d'autres. C'est que jusque-là, les médicaments qui étaient couverts par les brevets et qui étaient trop chers pour les pays pauvres, eh bien, on disait aux pays pauvres, si vous ne pouvez pas acheter ces médicaments, eh bien, tant pis pour vous. Et lorsque les trithérapies anti-sida ont été découvertes en 1996, eh bien, après une bataille de plusieurs mois, l'Organisation mondiale du commerce a changé ses règles. Et pour la première fois, des génériques ont pu être produits et achetés par les pays pauvres au prix coûtant. Et on les a dispensés du prix supplémentaire, beaucoup plus important, qui revient à la propriété intellectuelle et industrielle. Et ce qui s'est fait pour les médicaments contre le sida n'est pas encore universel pour les autres. Donc vous voyez que ces sursauts, ces révoltes contre des désastres ont été des étapes importantes de la démarche éthique biomédicale et montrent bien que c'est pas seulement les avancées techniques qui amènent à des réflexions et des changements, c'est de nouvelles approches des droits, du respect des droits fondamentaux des personnes qui scandent ces désastres autant qu'ils scandent les avancées des connaissances et des réalisations. Parmi tous les travaux, toutes les réflexions, tous les avis auxquels j'ai participé au Comité consultatif national d'éthique avant de le présider, deux de ceux qui m'ont le plus marqué et qui montrent bien que les questions éthiques sont pas simplement des questions qui naissent parce qu'il y a de nouvelles découvertes et qu'on se demande comment les appliquer. Ça a été un avis sur santé et médecine en prison, qui au fond, s'interrogeant sur l'état de santé, la protection de santé des prisonniers, arrive à la conclusion que c'était le non-respect des droits fondamentaux des personnes en prison qui causait, y compris les problèmes médicaux, mais que c'était une question beaucoup plus profonde. Et puis c'était un avis sur la situation des personnes, enfants et adultes, avec autisme en France, où nous découvrions et nous mettions en évidence le défaut profond, non seulement pour les personnes avec autisme, mais pour toutes les personnes handicapées, de scolarisation, d'inclusion, d'accès au travail, d'accès au logement, et une tendance dans notre pays à isoler les personnes vulnérables en les envoyant ailleurs, plutôt que de leur permettre de vivre dans la société. Donc je crois que la réflexion éthique, dans ce qu'elle a de plus profond, c'est une réflexion sur la façon dont on peut au mieux, encore une fois, respecter les personnes. Et c'est vrai que lorsqu'il y a des découvertes nouvelles, lorsqu'il y a des instruments nouveaux, des outils nouveaux, cette réflexion peut prendre un caractère particulièrement aigu parce qu'on est confronté à une situation nouvelle. Mais il n'y a pas que les situations nouvelles qui posent des problèmes. Certaines situations scandaleuses, tragiques, auxquelles on a fini par s'habituer, eh bien, sont aussi des situations qui posent des problématiques majeures.
Je le craignais, Jean-Claude Amezen, on arrive au bout de cette masterclass et on n'a pas pu aborder tout un tas de questions qui auraient mérité de l'être. Mais tout de même, pour terminer, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu finalement de ce qui arrive à l'issue de tout ce que vous nous avez raconté. Donc la recherche, les questionnements éthiques, la transdisciplinarité, c'est évidemment cette émission sur les épaules de Darwin qui est finalement ce moment de transmission à un large public, il faut bien le dire, plus d'un million d'auditeurs. Il est toujours bon de citer le philosophe Paul Ricoeur sur tous nos jours. Il dit « Le plus court chemin de soi à soi passe par autrui ». Est-ce que c'est un peu ça que vous essayez de faire avec cette émission ?
Oui, oui. Et puis, encore une fois, je pense que transmettre, c'est à la fois créer un lien entre les connaissances et les autres. Il y a quelque chose de très émouvant que vous connaissez dans la radio, c'est qu'on parle à des personnes et en même temps, on ne les voit pas. Et donc, il y a à la fois quelque chose...
Sauf aujourd'hui.
et donc, il y a quelque chose d'à la fois très intime et de distant qui renvoie un peu à la lecture. Et on a des échos qui viennent de manière différée. Et je crois que la transmission, enfin, pour moi, la transmission, c'est apprendre. Pour moi, la transmission, c'est partager cette joie d'apprendre. C'est en même temps m'interroger sur ce que je crois connaître. Parce qu'il n'y a pas de... transmettre, c'est s'apercevoir au moment où l'on élabore ce qu'on va dire, que ce qu'on croyait connaître, au fond, est source de questionnement nouveau. Donc ce que j'essaye de transmettre, avant tout, je dirais, c'est l'envie de chercher, l'envie de s'interroger, l'idée que chacun est, dans le domaine qui l'a ou qui le concerne, un chercheur. Et donc, ce n'est pas simplement de transmettre des connaissances, c'est transmettre l'envie d'aller plus loin. En ce qui concerne la science et les relations avec d'autres dimensions de la culture, je trouve que, encore une fois, la science est un domaine séparé. On a l'impression qu'on est scientifique ou on ne l'est pas. Pour moi, c'est un peu comme...
L'expression même de culture scientifique, voilà, est assez peu répandue.
Voilà, pour moi, c'est un peu comme la musique. C'est-à-dire, on peut aimer l'entendre sans savoir la jouer. On peut la jouer sans être virtuose. On peut être virtuose sans être chef d'orchestre. On peut être chef d'orchestre sans être capable de composer de la musique. Donc, il y a une infinité de façons d'approcher ce qu'on appelle les sciences. Et si on comprend que c'est une part de la culture, eh bien, on peut l'approcher plus ou moins en profondeur ou pas, en fonction de ce qu'on veut découvrir. Je pense qu'il y a aussi un enjeu démocratique. De plus en plus, les décisions importantes dans notre société portent sur des sujets qui ont trait à des questions scientifiques. Et ne pas comprendre, être complètement en dehors de ce champ, c'est s'interdire d'une certaine façon de pouvoir participer en connaissance de cause. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin d'être scientifique ou d'être chercheur pour en comprendre suffisamment pour participer. De la même façon que un patient ou une patiente peut comprendre suffisamment sur ce qu'est la maladie, ce que sont les traitements, pour pouvoir choisir ce qui convient le mieux. Je crois que une connaissance scientifique, et puis pas seulement la connaissance scientifique, transmettre ce qu'est la démarche scientifique, ce qu'est cette démarche qui, justement, de manière assez démocratique, hein, parce qu'en science, contrairement à ce qui est le cas dans le domaine artistique, une découverte ne vaut que parce que d'autres sont capables de la voir ailleurs et d'une autre manière. Donc la méthode scientifique, qui n'est pas la somme des connaissances, mais qui est la méthode qui permet en permanence d'acquérir des connaissances nouvelles, c'est quelque chose, je pense, que les citoyens devraient connaître pour pouvoir mieux juger, encore une fois, de l'importance des choix démocratiques.
Merci beaucoup Jean-Claude Amezen, merci d'avoir participé à cette masterclass et de nous inviter à cette démarche scientifique.
C'était la masterclass de Jean-Claude Amezen avec Raphaël Bourgois. Coordination Arnaud Laporte, attaché de production Chouchane Guergaillant.